Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french. Les principales actualités de ce mardi 27 juillet 2021. Le confinement dans l'état du Victoria et dans celui d'Australie-Méridionale se sera terminé ce soir. En revanche, on ne sait pas encore si celui de Sydney sera prolongé. En Tunisie, une crise politique sans précédent depuis le printemps arabe il y a 10 ans. Et en Polynésie française, Emmanuel Macron poursuit sa visite officielle. Il est arrivé aujourd'hui dans l'archipel des Tuamotu. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre aujourd'hui 172 nouveaux cas de transmission locale, un nouveau record depuis l'apparition du foyer épidémique actuel. Parmi ces 172 nouveaux cas, 60 n'étaient pas isolés durant la phase infectieuse. Elle ne s'est, Gladys Bérégé-Client, la chef du gouvernement local, ne s'est en revanche pas prononcée sur le prolongement du confinement qui, à l'heure actuelle, doit officiellement être levé le 30 juillet prochain, une date qui, de toute évidence, va être repoussée.
But are they where we want them to be? To lift the lockdown, they're not. We'll consider the health advice, but also the health advice we've been receiving to date in terms of what life looks like beyond July 31. It's also clear for us that we need to intensify our strategy to ensure that the population comes forward to get vaccinated. So these are all things that we will be considering. And I just ask people, I know it's really difficult not to speculate, but please wait till we make those announcements. I'm hoping to make those announcements as early as tomorrow.
Et cette situation qui s'enlise, c'est l'occasion de rappeler que l'ATAGI, le comité consultatif en matière de vaccins, recommande désormais à toute personne adulte vivant à Sydney de se faire vacciner, quel que soit le vaccin, ce qui signifie, étant donné que le seul dont on dispose en quantité importante à l'heure actuelle est le vaccin produit AstraZeneca, que les personnes âgées de moins de 60 ans aussi peuvent désormais y avoir recours en prenant contact avec leur médecin généraliste. Sur ce sujet, le ministre fédéral de la Santé, Greg Hunt, a tenu à souligner que les avantages de la vaccination avec AstraZeneca dépassent très largement les risques d'effets secondaires. Par ailleurs, la Nouvelle-Galles du Sud annonce l'ouverture d'un nouveau vaccinodrome où on pourra se faire administrer ce vaccin. Les nouvelles sont meilleures un peu plus au site puisque le confinement dans le Victoria va lui être levé ce soir à minuit. C'est Daniel Andrews, le chef du gouvernement, qui l'a annoncé. Les écoles vont rouvrir et il sera de nouveau possible de pratiquer le sport en milieu associatif. En revanche, les cafés, les restaurants, les salles de sport restent soumises à des restrictions en termes de capacité d'accueil. Le port du masque reste également obligatoire et les visites à domicile sont toujours prohibées. Du coup, Daniel Andrews n'a pas véritablement crié victoire. Il a également ajouté qu'il comprenait parfaitement que ces restrictions toujours en place allaient être difficiles à vivre.
We understand that that will be challenging for people who have not seen family and friends for a couple of weeks now, and many for longer periods than that, but we know that this is where transmission occurs. So there's a lot of good news in today's announcements. That's, I know, not the news people want to hear, but it is incredibly important.
Le confinement se sera également terminé ce soir à minuit en Australie-Méridionale. Il a donc été levé au bout de 7 jours, comme l'avaient initialement envisagé les autorités dans cet état. Stephen Marshall, qui le dirige, a néanmoins indiqué que certaines restrictions allaient être instaurées, notamment des limites en matière de rassemblement, tant à l'extérieur que dans des établissements qui reçoivent du public, et le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos. Ceci étant dit, le sentiment général à Adelaide, c'est quand même le soulagement. On écoute Stephen Marshall.
That's a huge relief. It's certainly a huge relief for me and my team. And I want to just again reiterate my grateful thanks to every single person who has done an outstanding job. Now, we're not going straight back to where we were, and I've been messaging this now for quite some time. We don't want to have a relapse. We only want to do this once. And so we are putting some higher level restrictions in over and above what we had prior. But we will be stepping those down as the risk diminishes.
Et les nouvelles sont bonnes aussi pour le Queensland qui aujourd'hui ne recense aucun nouveau cas de transmission locale. En revanche, l'un des derniers cas détectés ces derniers jours suscite, lui, quelques inquiétudes. Il s'agit d'un homme qui est arrivé de Chine et qui aurait contracté le virus durant sa quarantaine. Il se trouvait en fait dans une chambre d'hôtel faisant face à celle d'un homme porteur du virus et qui arrivait, lui, d'Afrique du Sud. C'est ce qu'a expliqué la médecin en chef de l'État, Janet Yang.
I got the whole genome sequence result for that man who traveled from China and he has exactly the same sequence. It's identical with no SNPs different with a traveler who returned from South Africa via Doha. This gentleman who was on the same floor, in fact in the room opposite to one of those others, has contracted the infection from that person.
L'un des PDG de l'une des marques les plus connues d'Australie appelle le gouvernement à apporter plus de soutien aux PME du pays, et notamment de Nouvelle-Galles du Sud. Rod O'Rourke, qui est donc le PDG de la chaîne des magasins Best & Less, et dont le cours de bourse a chuté de 11% hier, s'inquiète pour ses affaires, mais aussi pour celles de milliers de petits entrepreneurs qui ne peuvent désormais plus compter sur JobKeeper pour rester à flot. Il a donc appelé hier dans l'émission On the Money sur SBS le gouvernement à faire plus d'efforts.
There are many, many small, medium-sized businesses, businesses in sectors which have been completely decimated that do require ongoing support by the government.
C'est une crise politique d'une ampleur sans précédent depuis le printemps arabe qui est en train de se jouer actuellement en Tunisie, alors que le pays fait déjà face à une crise sanitaire sans précédent, provoquée par le variant Delta. Le Premier ministre vient d'être limogé par le président Kais Saied, qui a également suspendu les activités du Parlement pour une durée de 30 jours. Depuis, des milliers de personnes se sont rassemblées devant le Parlement à Tunis. D'un côté, on trouve des partisans du président, de l'autre, ceux du parti Ennahda, la formation politique dont est issu le Premier ministre qui vient d'être évincé. Et ces derniers dénoncent un coup d'État. On écoute le reportage d'Amélie Tullet pour Radio France Internationale.
Il y a deux semaines, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé déclarait la Tunisie dépassée par la situation sanitaire. Pénurie d'oxygène, hôpitaux saturés et personnel soignant à bout de nerfs, plusieurs pays ont envoyé une aide médicale d'urgence. Les appels à l'aide se sont multipliés sur les réseaux sociaux et la diaspora tunisienne se mobilise. Avec 18 000 morts pour 12 millions d'habitants, le pays connaît actuellement le taux de mortalité le plus élevé du Maghreb et du continent africain. Et le nombre de Tunisiens vaccinés reste insuffisant pour ralentir significativement la transmission du coronavirus. Au sommet de l'État, les tensions entre présidence, primature et assemblée entravent depuis plusieurs mois l'action publique et la gestion de la réponse sanitaire était ces dernières semaines de plus en plus critiquée. Il y a 6 jours, le ministre de la Santé a même été limogé après un raté dans la campagne de vaccination. Il avait annoncé l'ouverture des centres à tous les plus de 18 ans à l'occasion des congés de l'Aïd. Une opération arrêtée dès le deuxième jour face aux bousculades, aux files d'attente interminables et à la déception provoquée devant le manque de doses réellement disponibles. Blocage politique chronique et aggravation de cette crise sanitaire ont nourri en Tunisie l'exaspération à l'origine des manifestations hier, jour de la fête de la République, et ce avant l'annonce du président Saïed de geler les activités du Parlement.
Aux États-Unis, le maire de New York, Bill de Blasio, vient d'annoncer que tous les employés municipaux, 340 000 personnes, parmi lesquelles notamment les policiers et les enseignants, devront être vaccinés d'ici à la mi-septembre, sans quoi ils devront à partir de cette date se soumettre chaque semaine à des tests prouvant qu'ils ne sont pas porteurs du coronavirus. Le 13 septembre, ce n'est pas une date qui a été choisie au hasard, puisque elle correspond en fait à la rentrée des classes à New York. Or, le maire souhaite que les élèves puissent retourner à l'école à plein temps. Bill de Blasio a par ailleurs appelé les écoles privées à appliquer les mêmes mesures.
My message to the private sector is go as far as you can go right now. Do what you can do. Private entities have the right to make a lot of choices. They have a lot of freedom. They can set their own rules. Each private sector employer needs to do what they believe is right, but I would strongly urge a vaccination mandate whenever possible or as close to it as possible, at minimum requiring all your employees to get vaccinated or to do weekly testing.
À New York, environ 65% des adultes sont complètement vaccinés. Ceci étant dit, la ville est confrontée depuis quelques semaines à une poussée du variant Delta. Et un autre pays d'ailleurs confronté à une hausse du nombre de cas porteurs du variant Delta, c'est les Philippines, où le gouvernement vient d'annoncer un confinement ciblé sur les enfants âgés de 5 à 17 ans, des enfants qui venaient de sortir il y a pourtant à peine 3 semaines du confinement le plus long du monde. À Manille, le reportage de Manon Tomzig pour RFI.
Elena Magalang habite un quartier populaire de Manille. Elle ne sait pas comment elle va annoncer ce nouveau confinement à son fils de 12 ans.
Il va sûrement être très déçu. Je pense que c'est difficile pour lui parce que ça fait longtemps qu'il est confiné à la maison, depuis le début de la pandémie. On n'a pu aller se promener avec lui que quelques jours alors que c'est un enfant très actif qui court partout.
C'est d'autant plus difficile pour lui qu'il est le seul des quatre enfants de la famille à avoir moins de 17 ans, donc le seul du foyer à être à nouveau confiné.
Quand on sort, il demande toujours s'il peut venir avec nous, mais il n'a pas le droit. Parfois, il se met à pleurer. Alors je fais en sorte de toujours lui rapporter un petit cadeau.
Obligé de rester à la maison depuis près d'un an et demi, il tourne en rond. Ses parents ont remarqué le poids du confinement sur son comportement.
Il reste allongé sur le lit ou il va chez les voisins. Sinon, il regarde la télé ou il joue avec le téléphone portable. Parfois, quand on lui demande de faire quelque chose, il se met en colère.
Les enfants ont également peu d'espoir de retrouver les bancs de l'école prochainement. La rentrée scolaire a été repoussée de 6 semaines. Et aucun retour en classe n'a été annoncé. Manon Tomzig, Manille, RFI.
C'est un petit pays perché dans l'Himalaya dont on entend très rarement parler. Le Bhoutan vient d'annoncer la vaccination de la totalité de sa population adulte, ce qui fait de cet État, qui compte environ 750 000 habitants, le premier au monde à atteindre cet objectif. Un objectif rendu possible grâce aux dons par l'Inde de 550 000 doses de vaccins. Emmanuel Macron, le président français, poursuit son déplacement en Polynésie française. Il est arrivé il y a quelques heures sur l'atoll de Manihi, dans l'archipel des Tuamotu. Aujourd'hui, son déplacement est consacré à la question du changement climatique. Hier, en revanche, il était dans les îles Marquises, à 1400 km de Tahiti, une destination où aucun président français en exercice ne s'était par le passé rendu. Au cours de cette visite, hier, il s'est recueilli sur les tombes du peintre Paul Gauguin et du chanteur Jacques Brel. Il a aussi tenu à rendre hommage à la culture et aux traditions polynésiennes. Il s'est également engagé à soutenir auprès de l'UNESCO le classement des îles Marquises au patrimoine mondial de l'humanité. Écoutez-le.
Je me battrai à vos côtés pour que nous puissions classer à l'UNESCO les Marquises. Et le faire parce que c'est à la fois cette nature, cette biodiversité, ça n'est pas un mot technique, c'est votre vie, ce sont vos paysages, ce sont vos oiseaux. Ce sont nos paysages, ce sont nos oiseaux. Et se battre aussi pour ces traditions, cette culture, ces civilisations que vous portez et que vous honorez.
À Paris, l'extension du pass sanitaire a été votée définitivement dimanche. Il sera obligatoire pour s'attabler dans un café ou un restaurant dès la fin de la semaine, le 1er août. Et ça ne rassure pas vraiment les restaurateurs qui craignent de perdre de la clientèle. Hier, Alice Rougeat est allée les interroger à Paris pour RFI.
Depuis ce lundi matin, les restaurateurs n'ont qu'un mot à la bouche, le pass sanitaire. À partir de la semaine prochaine, ils devront vérifier que les clients en possèdent bien un. Et dans le cas contraire, ils se verront dans l'obligation de refuser de servir. C'est ce que redoute Elodie. Elle tient un restaurant dans le sud de Paris.
On va être obligé de refuser des clients alors qu'aujourd'hui, on n'a qu'une envie, c'est de travailler. On a quand même fermé en tout 9 mois et on n'a qu'une envie, c'est de bosser. Donc notre intérêt, il n'est pas de dire non aux gens parce qu'ils n'ont pas un pass sanitaire. J'estime que c'est pas tellement notre place de faire ça.
L'idée de contrôler les clients ne séduit pas non plus Karim, gérant d'un établissement, mais pour lui, la priorité, c'est de maîtriser l'épidémie.
On refusera, oui, l'accès, clairement. C'est la législation, on suivra la législation en vigueur. Je pense que c'est d'abord une question de bon sens.
Si les restaurateurs ne respectent pas la règle imposée, ils pourront faire face à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de leur établissement. En ce qui concerne les employés, ils seront obligés eux aussi de posséder un pass d'ici à la fin du mois d'août, une mesure qui passe mal pour ce serveur.
Même si on n'a pas envie, on n'a pas le choix, sinon on perd le boulot. Et on est obligé de travailler. C'est pas que moi, c'est tous mes collègues. On est dans l'obligation d'être vaccinés. Alors j'espère qu'on sera prêts d'ici fin août.
Même si l'application de ces nouvelles mesures ne fait pas l'unanimité, tous les respecteront. Car après 9 mois de fermeture à cause des confinements successifs, ils comptent bien sur la saison estivale pour renflouer les caisses.
On fait le point maintenant sur la météo de ce mardi en Australie. 18 degrés à Perth, 19 degrés à Adelaide où la pluie pourrait s'inviter plus tard dans la journée. 17 degrés à Melbourne, 14 degrés à Hobart, 22 degrés et du soleil aujourd'hui à Sydney. Soleil aussi à Brisbane où il fait 23 degrés et jusqu'à 32 degrés sous le ciel de Darwin ce mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.